Vous écoutez On lit pour vous.
L'adénomyose, cette maladie dont personne ne parle, un texte de Leïla Jolin-Dahel, paru le 7 mai 2026 dans la Gazette des femmes. L'adénomyose est une maladie encore largement méconnue, alors qu'environ une femme sur cinq en est atteinte. Caractérisée notamment par des menstruations douloureuses et abondantes, elle peut entraîner d'importantes conséquences sur le quotidien de celles qui en souffrent. Quand on m'a dit que j'avais de l'adénomyose, c'était la première fois que j'en entendais parler, se souvient Catherine Fortuna. Ça ressemblait à des infections urinaires, mais j'étais aussi très fatiguée et mon ventre gonflait tout le temps. L'adénomyose survient lorsque l'endomètre pénètre le muscle utérin, appelé le myomètre. Une condition qui diffère de l'endométriose, où l'endomètre s'étend à l'extérieur de l'utérus. Cette pathologie se caractérise par des règles généralement abondantes et douloureuses, explique la docteure Jessica Papillon Smith, gynécologue au Centre universitaire de santé McGill. Des patientes vont même changer de serviette hygiénique toutes les 30 à 45 minutes, en ayant de gros caillots, ajoute-t-elle. Des saignements qui peuvent mener à une anémie, causant ainsi fatigue, palpitations, manque d'énergie et de concentration. L'adénomyose peut aussi entraîner une augmentation du volume de l'utérus, des douleurs pelviennes chroniques ou lors des rapports sexuels, une sensation de pression sur la vessie ou le rectum et des problèmes de fertilité. Elle cohabite parfois avec d'autres pathologies, comme les fibromes utérins ou l'endométriose. À l'époque, on pensait qu'elle concernait surtout les patientes qui ont eu des bébés, qui sont dans la quarantaine et qui approchent la périménopause, ajoute la docteure Papillon-Smith. Mais de plus en plus, on en trouve chez des femmes dans la vingtaine ou qui n'ont jamais eu d'enfants. Ces causes restent encore obscures, explique la docteure Sarah Maheu-Lacroix, gynécologue et clinicienne chercheuse au CHU de Québec. Parmi les hypothèses évoquées, les femmes les plus touchées seraient celles qui ont eu des chirurgies à l'utérus ou avec antécédents familiaux, observe celle qui est aussi professeure au département d'obstétrique, de gynécologie et de reproduction de l'Université Laval. De lourdes conséquences sur le quotidien. Valérie Lavoie souffrait de douleurs invalidantes à la vessie depuis environ 2 ans qui l'ont forcée à quitter son emploi d'analyste pour une entreprise de télécommunications. Elle est également passée près de perdre la garde des enfants dont elle s'occupait en famille d'accueil. J'étais tout le temps en arrêt maladie et sans diagnostic, c'est difficile de se battre avec les assurances. La femme de 46 ans a dû consulter plusieurs médecins avant d'en avoir le cœur net. On m'a dit que c'était dans ma tête et que je devais gérer mon anxiété, déplore celle qui s'est fait prescrire des antidépresseurs et des benzodiazépines. Je me suis sentie abandonnée par le système. J'ai même pensé que j'étais en train de devenir folle. À force d'insister, elle a finalement obtenu une échographie endopelvienne auprès d'une spécialiste. Quand elle a vu mon résultat, elle ne comprenait pas qu'on soit passé à côté. Mon utérus était complètement fini à cause de l'adénomyose avancée, dit-elle. Ça m'a pris seulement un an et demi parce que j'ai défoncé des portes. Sinon, je serais toujours en errance médicale. Des parcours comme celui de Valérie Lavoie, Élise Bruneau en a régulièrement écho. Pour celles qui consultent, c'est encore difficile d'être entendue, se désole la directrice du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Souvent, l'échographie pelvienne de base ne permet pas d'établir le diagnostic, précise la docteure Sarah Maheu-Lacroix. Mais ce sont des lésions qu'on peut facilement voir par IRM ou avec une échographie spécialisée dans la détection de l'adénomyose et de l'endométriose par du personnel possédant cette expertise, rappelle-t-elle. La tâche est néanmoins complexe, puisque les atteintes fluctuent selon le cycle menstruel et les traitements utilisés, ajoute la médecin. Les lésions vont s'atrophier et devenir moins décelables chez les patientes sous hormones, explique la gynécologue. Le stade de la maladie peut également compliquer sa détection, renchérit la docteure Jessica Papillon-Smith. Dans certains cas, ce sera évident parce que l'utérus fait deux fois sa taille habituelle. Mais dans d'autres, c'est facile à manquer, surtout en début de maladie. Si l'adénomyose touche environ une femme sur cinq, sa prévalence pourrait potentiellement être plus importante. C'est peut-être sous-déclaré parce que beaucoup pensent que leurs douleurs et leurs saignements abondants sont normaux, puisque c'est ce qu'on leur a répété toute leur vie, concède-t-elle. Et certaines vont se présenter chez un médecin en ayant des symptômes, mais ne recevront pas de diagnostic. Des traitements limités. Élise Bruneau déplore que, trop souvent, les traitements hormonaux soient l'avenue privilégiée par les soignants. On y va à tâtons avec des choix de stérilets ou de pilules, mais ça dépend de la façon dont une personne y répond. Lorsqu'ils sont tolérés par les patientes, la pilule contraceptive, les progestatifs, le stérilet ou des médicaments simulant la ménopause permettent d'atrophier les lésions, explique la docteure Sarah Maheu-Lacroix. La prise d'analgésiques ou d'anti-inflammatoires est indiquée pour la gestion de la douleur et les antifibrinolytiques ont, quant à eux, pour but de diminuer le flux sanguin durant les règles. L'embolisation des artères utérines ou l'ablation de l'endomètre pour réduire les saignements sont des avenues chirurgicales possibles, tout comme l'est l'hystérectomie. En octobre 2025, Catherine Fortuna a subi cette intervention chirurgicale. Après, c'était le jour et la nuit en matière de gonflement du ventre, observe-t-elle. Valérie Lavoie a, elle aussi, vécu cette intervention en juin dernier. « Je peux sortir pour marcher, mais je reste incapable de travailler à temps plein » en demeurant assise, décrit-elle. Les médecins m'avaient prévenu que je garderais des atteintes nerveuses, faute de prise en charge à temps, avant que la douleur ne devienne chronique. L'importance d'en parler. Pourquoi l'adénomyose reste-t-elle enfermée dans l'utérus à défaut de s'étendre dans l'espace public? Le problème est que si tu as tes règles tous les mois, les médecins écartent tout de suite cette hypothèse, dénonce Valérie Lavoie. Une échographie endopelvienne devrait être la norme si une femme dit avoir mal au ventre. Encore aujourd'hui, on doit se battre pour en obtenir une. Une réalité à laquelle Catherine Fortuna souhaite sensibiliser à la fois la population et le corps soignant. L'adénomyose, personne ne connaît ça. Il faut en parler, plaide-t-elle. C'était l'adénomyose, cette maladie dont personne ne parle, un texte de Leïla Jolin-Daël, paru le 7 mai 2026 dans la Gazette des femmes.
Non, on ne peut pas vraiment attraper froid, mais il faut rester vigilant. Un texte de Morgane Petit, paru le 5 mai 2026 dans Science et Vie. Les expressions populaires comme « attraper froid » ou « coup de froid » sont souvent utilisées lorsque les températures chutent. Mais ces termes ont-ils une base scientifique? Bien que le froid ne soit pas directement responsable des maladies, il peut affaiblir notre organisme, augmentant ainsi les risques d'infection durant l'hiver. Coup de froid. Qu'entend-on par là? Coup de froid, attraper froid, deux expressions qu'on entend souvent lorsque les températures baissent et que nous entrons dans l'automne et l'hiver. Souvent, on les utilise pour indiquer les maladies d'hiver, rhume, gastro et autres grippes. Mais s'agit-il seulement d'expressions? Où peut-on réellement attraper froid et donc tomber malade à cause du froid? Eh bien, non. Médicalement parlant, ces expressions n'ont pas de sens et le froid ne peut pas nous faire directement tomber malade. Cependant, il est vrai que le froid peut réellement impacter notre corps et notre organisme. Quand le froid affaiblit notre organisme, on ne tombe donc pas malade avec un coup de froid. Car finalement, pour être malade, il faut un agent infectieux, un virus, une bactérie ou même un champignon. Le froid seul ne peut donc pas nous infecter. Par contre, il peut nous affaiblir. Et c'est une expérience assez étrange et discutable éthiquement qui a commencé à mettre la puce à l'oreille des chercheurs. Ainsi, en 1878, Louis Pasteur a forcé des poules à vivre dans un bain d'eau glacée. Cela lui a permis de se rendre compte qu'elles s'infectaient et mouraient d'une maladie infectieuse, le charbon, à laquelle elles sont normalement résistantes. Pour autant, il aura fallu attendre longtemps pour avoir des preuves que le froid pouvait affecter le système immunitaire. 150 ans après, des études ont pointé du doigt les voies respiratoires et plus particulièrement notre muqueuse nasale. Notre nez est en contact direct avec l'extérieur. C'est donc une première barrière contre les agents pathogènes. Or, il s'avérerait que le froid pourrait affaiblir cette barrière. Un coup de froid affecterait-il finalement notre nez? Lorsque des agents pathogènes sont détectés par les muqueuses nasales, une réponse immunitaire se déclenche. Des vésicules extracellulaires sont alors libérées qui contiennent de nombreuses substances qui vont perturber et gêner le virus ou la bactérie. Or, les scientifiques ont remarqué que le froid diminuait de près de 42 % la quantité de vésicules produites. L'agent pathogène rencontrera donc une barrière beaucoup plus poreuse si notre nez subit un coup de froid. Le froid peut être dangereux. Le coup de froid ne nous fait pas tomber malade directement, mais il nous impacte quand même. De plus, le froid peut vraiment devenir dangereux. Les fortes chaleurs sont très meurtrières, mais le froid n'est pas en reste. Les scientifiques constatent des variations saisonnières avec un pic hivernal observé dans plusieurs pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies respiratoires. ils s'aperçoivent que la mortalité augmente au fur et à mesure que la température baisse. En temps normal, l'être humain se protège du froid grâce à des mécanismes physiologiques thermorégulateurs. Ces derniers comprennent des acteurs des systèmes nerveux, endocriniens, cardiaques et respiratoires. Or, si ces mécanismes thermorégulateurs sont déficients ou si le froid est trop important, des pathologies peuvent survenir. La vasoconstriction, compression des vaisseaux sanguins, risque de conduire à des ruptures favorisant des thromboses artérielles. Ces dernières, associées à une augmentation du besoin en oxygène du cœur, aggravent les risques d'infarctus. Au niveau du cerveau, il peut y avoir des accidents vasculaires cérébraux. D'autres pathologies sont associées au froid, comme l'asthme ou l'hypothermie. Cette dernière correspond à un refroidissement involontaire de la température interne du corps en dessous de 35 degrés Celsius. Elle n'est pas toujours facile à détecter, mais si elle est grave et non prise à temps, elle peut conduire à la mort de la personne. Pas de coup de froid, mais on est quand même plus souvent malade en hiver. D'accord, on n'attrape pas froid et le coup de froid ne nous rend pas malade directement. Malgré tout, on voit bien qu'on est plus souvent malade quand les températures baissent. À quoi est-ce dû? C'est un fait. Il y a plus d'infections respiratoires en hiver qu'en été. Finalement, même si ce n'est pas forcément directement le froid, c'est quand même lié. En effet, lorsque les températures baissent, nous avons tendance à rester plus souvent enfermés en intérieur. Et nous ne restons pas seuls. Nous sommes plusieurs dans un espace clos. Il y a donc plus de risques de contagion. D'autres hypothèses postulent qu'avec le froid, les agents pathogènes, et notamment les virus, restent plus longtemps présents dans l'environnement. Alors, comment se protéger et éviter les coups de froid? Adoptons les fameux gestes barrières. On se lave les mains après avoir touché des portes ou avoir été aux toilettes. On porte un masque si on ressent des symptômes ou si on est potentiellement en présence de personnes infectées. Il faut également éviter de porter les doigts à son visage. C'était « Non, on ne peut pas vraiment attraper froid, mais il faut rester vigilant. » Un texte de Morgane Petit, paru le 5 mai 2026 dans Science et Vie.
Comment savoir si votre profession fait partie des 5 millions d'emplois menacés par l'automatisation? Un texte de Fanny Pégard, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science. Entre automatisation des tâches, logiciels intelligents et robots capables d'exécuter des tâches complexes, de nombreux salariés s'interrogent sur la pérennité de leur emploi. D'après une étude publiée en avril 2026 par la COFACE et l'Observatoire des emplois menacés et émergents, près de 5 millions d'emplois en France pourraient être impactés par l'automatisation dans les prochaines années. Mais comment savoir si votre profession fait partie des métiers les plus exposés? Faut-il craindre une disparition massive des emplois? L'étude menée par la COFACE et l'Observatoire des emplois menacés et émergents révèle qu'environ 16% des emplois français présentent un risque élevé d'automatisation d'ici 2030. Cela représente près de 5 millions de postes potentiellement concernés par les avancées de l'intelligence artificielle et des technologies automatisées. Contrairement aux idées reçues, les métiers manuels ne sont pas les seuls touchés. Les professions dites intellectuelles ou administratives figure désormais parmi les plus exposés. Les outils d'IA générative, capables de rédiger des textes, d'analyser des données ou de produire des rapports, bouleversent déjà certains secteurs. Les auteurs de l'étude expliquent que l'automatisation ne signifie pas forcément la destruction totale d'un emploi. Dans de nombreux cas, certaines tâches seront simplement remplacées par des logiciels ou des systèmes intelligents. D'après cette étude, les métiers les plus exposés à l'intelligence artificielle appartiennent principalement aux secteurs fortement intellectuels et techniques. Dans le scénario principal analysé par les chercheurs, centré sur le développement de l'IA agentique, près d'un métier sur 8 dépasserait le seuil de 30 % de tâches pouvant être automatisées. L'étude considère ce niveau comme un indicateur de transformation majeure d'une profession, susceptible d'entraîner d'importantes réorganisations d'effectifs, sans pour autant conduire à la disparition totale du métier concerné. Sur les 923 métiers étudiés, 120, soit environ 13 % affichent un niveau d'exposition important, avec plus de 30 % de leurs tâches susceptibles d'être automatisées. L'étude souligne également une différence majeure avec les précédentes vagues d'automatisation. Cette fois-ci, l'intelligence artificielle générative touche particulièrement les emplois qualifiés. Les métiers de l'ingénierie figurent parmi les plus concernés, avec près de 29 % de tâches exposées. Les professions du droit, de la finance et des secteurs créatifs atteignent 27 %, tandis que les fonctions administratives et managériales présentent un niveau d'exposition proche de 24 %. Et les salariés les mieux rémunérés ne sont pas épargnés. Selon les auteurs de l'étude, les 10 % des travailleurs aux revenus les plus élevés pourraient voir entre 20 et 25 % de leurs tâches automatisées, confirmant ainsi que les cadres et les professions à forte qualification sont tout autant impactés par l'intelligence artificielle que les métiers incluant des tâches répétitives. À l'opposé, 136 professions, soit environ 15 % des métiers analysés, présentent un niveau d'exposition très faible, avec moins de 5 % de leurs tâches susceptibles d'être automatisées. Ces métiers devraient donc être peu impactés par le développement de l'intelligence artificielle durant les prochaines années. Cela concerne les secteurs de l'hébergement-restauration, les services à la personne, la santé, la construction, les transports, ou encore le commerce et l'artisanat. D'après l'étude de la CoFACE et de l'Observatoire des emplois menacés et émergents, l'intelligence artificielle mettrait en danger 16 % des emplois en France. Face à la progression de l'automatisation, certains métiers restent malgré tout plus protégés. Le vieillissement de la population augmente les besoins en professionnels de santé. Les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les pompiers ou encore les médecins continueront d'être très demandés dans les prochaines années et seront surtout peu impactés par l'automatisation des tâches. Les techniciens qualifiés, les artisans ou les experts industriels conservent une forte valeur ajoutée humaine qu'il est difficile d'automatiser complètement. Par exemple, pour les plombiers, les électriciens, les maçons, les mécaniciens. Paradoxalement, le développement de l'intelligence artificielle crée également de nouveaux emplois. Même si certaines tâches deviennent de plus en plus automatisables, les développeurs, les spécialistes cybersécurité, les ingénieurs IA ou data restent parmi les profils les plus recherchés au sein des entreprises. Plus un métier implique des procédures standardisées et répétitives, plus il peut être automatisé facilement. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de remplir des tableaux ou saisir des données simples dans des cases. À l'inverse, certaines professions créatives résistent davantage face à l'automatisation. Ces métiers impliquent en effet une forte dimension humaine où se mêlent empathie, créativité, intelligence émotionnelle, qu'il est difficile de remplacer par un robot. C'est le cas également pour les métiers où les relations humaines prédominent. C'est le cas, par exemple, pour les professions médicales, sociales ou éducatives. Les métiers d'aide à domicile, de psychologue ou encore d'enseignant, par exemple, sont ainsi moins exposés face à l'automatisation des tâches. Historiquement, chaque révolution technologique a détruit certains métiers tout en créant de nouveaux. L'arrivée d'Internet a, par exemple, supprimé certaines professions tout en générant des millions d'emplois dans le numérique. D'après les auteurs de l'étude, l'intelligence artificielle pourrait surtout transformer les métiers plutôt que de les faire disparaître complètement. Les salariés devront apprendre à travailler avec les outils automatisés plutôt que contre eux. L'enjeu principal est donc la formation et l'adaptation des compétences. Les qualités humaines, appelées aussi « soft skills », prennent de plus en plus de valeur dans un monde automatisé. La communication, le leadership, l'adaptabilité, la créativité ou encore l'empathie deviennent des atouts majeurs recherchés par de nombreux recruteurs. Les salariés qui seront dotés de ces qualités, qui sauront maîtriser les nouveaux outils numériques et anticiper les changements, auront alors un avantage conséquent sur le marché du travail. C'était « Comment savoir si votre profession fait partie des 5 millions d'emplois menacés par l'automatisation ?» un texte de Fanny Pégard, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science.